Bon vendredi tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi où vous voyez les meilleurs moments de la semaine, des épisodes en toute liberté, ainsi que certains petits snippets de mes bulletins de nouvelles humoristiques normalement réservés aux abonnés Patreon de Yann et Frank. On commence immédiatement cette semaine avec Maître Jonathan Poulin qui en avait beaucoup à dire sur le budget fédéral et la visite du président français Gabriel Attal.
Sur un note plus global, on est rendu vraiment avec des politiciens qui sont dans les étiquettes, puis les médias embarquent là-dedans, mais on n'a même plus la rigueur intellectuelle de vérifier si les étiquettes sont vraies. Puis moi, une des choses qui m'agresse le plus dans les articles de presse que je lisais ce matin pour voir qu'est-ce qu'ils disent sur le budget qui s'en vient, ils recitent le gouvernement pour dire que ça va être le budget de l'équité intergénérationnelle. Mais je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui entre de plein fouet dans le principe de l'équité intergénérationnelle, c'est toujours bien les déficits, puis les espèces de on met tout sur la carte de crédit, puis on pèle par en avant. S'il y a bien quelque chose qui fait mal à l'équité intergénérationnelle, c'est bien ça. Mais non, on est dans le coup, là. Puis le premier ministre dit ça, puis il regarde bien.
C'est comme si Christophe Rayled arriverait qu'un lance-flamme et dit ça, mesdames et messieurs, c'est le budget de l'hydratation. c'est what the fuck? Alors, sérieusement, parce que ce qui est capoté surtout, c'est autant qu'on le sait depuis longtemps, on le voit. Il y a eu différents exemples. Je sais que Dominique Dumas a choix, a fait beaucoup de montage là-dessus. On a une classe médiatique en grande majorité. Puis regarde, je dis pas que je suis meilleur. Moi, tous les maths, personnellement, ça n'a jamais été ma matière préférée à l'école. Je le reconnais. Mais on a une classe médiatique qui se contrefout de l'économie, puis qui à toutes les fois, même, je me rappelle, Patrice Roy, Sébastien Bovet, puis une couple d'autres, il y avait des commentaires disant, là, les seuls jours que j'aime pas dans ma carrière de journaliste, c'est les jours du budget, parce qu'à la fin des journées, j'ai toujours mal à la tête, parce que je comprends pas trop ce qu'ils se disent. Fait qu'il y a tout le temps le genre de réflexe que, par défaut, ils trossent le ou la ministre des Finances qui disent, puis ce qu'ils amènent, ils les challengent pas trop, ils voient les gros chiffres, ils font des gros titres d'articles avec ça, sans trop comprendre pourquoi, ils comprennent le principe de la dette, mais en bout de ligne, ça reste un chiffre. Là, tu sais, c'est comme Astral dans le néant distordu. Fait que c'est pas plus pire que ça, alors que c'est extrêmement grave, là.
Mais non, pis t'as tellement raison, puis en plus, on pouvait pas avoir un meilleur exemple là, l'autre semaine à quel point les journalistes puis l'économie, regardez, avec la visite du premier ministre français qu'on a eu. Moi, je voyais la classe médiatique là, être en extase, c'est extraordinaire, ils ont rappelé la langue puis la culture. Moi, honnêtement, là, j'ai trouvé qu'on faisait ticoune. Vraiment, on a reçu le premier ministre de la France. Quand t'écoutes la façon qu'ils s'expriment puis leur discours, tu te rends compte qu'on est vraiment à culotte courte avec les politiciens comme François Legault puis Marc Tanguay puis ce gang-là. Puis tu sais, il aurait tellement pu parler genre d'économie, tu sais, à ce moment-là, il y a des enjeux au niveau de l'accord de libre-échange avec la France, etc. Non, puis les conseillers du premier ministre français, ils ont dit, mais parle pas d'économie dans ton discours, ça les intéresse pas. Parle-leur de leur langue, de leur culture, parle-leur des plaines d'Abraham, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je trouve vraiment qu'on est...
Okay. Alors, surtout que le discours qu'il a donné, j'ai vu des bribes, je l'ai pas écouté au complet, mais un discours qui date d'au moins 40 ans, là, tu sais, la nationalisation de l'électricité, ça commence à dater en calvaire, là, puis le Québec qui se tient debout, puis qui ne prend pas le nom comme une réponse, comme tabarouette. C'est plus un discours que le même, je vais le dire, le général de Gaulle l'aurait pu dire, mais là, on n'est plus là pas à tout, là.
En plus, moi, je trouvais, si tu regardes un peu, là, parce qu'ils mettent souvent des images en filigrane de l'Assemblée, j'ai fait deux constats. Premièrement, les députés, ils savent pas se tenir. La moitié était vachie dans le
chef. Ben oui, regarde, je vais pour le principe, là. T'as Gabriel Attal, président français, puis t'es comme...
Non, mais je m'étais sérieux, là, je veux dire.
T'es à l'Assemblée nationale, chose.
T'es pas d'une bassine d'hôpital, là, je veux dire, redresse-toi. Puis j'ai remarqué aussi qu'il manquait énormément de députés, hein. J'ai trouvé que, tu sais, pour ceux qui savent pas, là, il y a pas de chaise de lousse à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il y a 125 sièges pour 125 personnes, là. Il y avait énormément de sièges de disponibles, de vacants. Puis aux dernières nouvelles, je sais qu'actuellement, il y a deux députés qui sont un peu en arrêt maladie pour des raisons, là. Mais au-delà de ça, les autres étaient où, là, tu sais? Je voyais que Québec solidaire ont boudé essentiellement le discours parce qu'il y avait une activité politique dans Tachereau, tu sais. Fait que tu dis, tu regardes les chaises, là.
Ben, autant que les libéraux, je suis plus ou moins surpris, étant des fédéralistes, malgré que ça reste un premier ministre étranger, là, tu te pognes pas le bain, tu te présentes, là, à moins d'avoir une raison, justement, de santé ou whatever. Là.
Mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit, d'ici quelques années, la présidence de la République française est occupée par Marine Le Pen, est-ce qu'on va l'inviter à l'Assemblée nationale du Québec, à faire le respect pour les gens détenant des titres, des fonctions. l'opposition va prendre le bord. Tu sais, je trouvais ça un peu hypocrite.
J'aimerais ça juste pour le principe d'avoir un deuxième round entre elle et Anne-Marie Dussault. Là. Ça a tellement été une pièce d'anthologie quand elle l'avait ramassée de manière magistrale. Ah, c'était quelque chose.
Sur le principe, je suis 100% d'accord avec eux. Moi, je pense que quand on reçoit des gens qui ont des fonctions officielles dans d'autres pays puis qu'on a moindrement de respect pour la démocratie, on les reçoit, on écoute ce qu'ils ont à dire. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est correct. Mais j'avais un petit sourire en coin puis je me disais, s'il fallait que autant Trump aux États-Unis revienne à la présidence ou que Marine Le Pen, par exemple, accède à la présidence de la République française, comme l'impression qu'il y a des invitations qui ne se rendront pas à leur bureau. Là,
ah, surtout en plus, on a entendu Étienne Grandmont de Québec solidaire la semaine passée dire que le gouvernement de Macron, c'est un gouvernement de droite. Là. C'est comme...
Ben oui, mais tu sais, si chose, là, Mélenchon venait faire un discours ici, ça serait
des peuples
courir pour un autographe. Alors, tu sais, on est dans le Kool-Aid, là, puis tu sais, ici, on s'entend au Québec, là, quand on décrit la droite, là, ça me fait toujours bien rire. Là. Il y a quelque chose au Québec, il n'y a pas vraiment de droite, là. C'est, on est à l'extrême gauche, à gauche, puis au centre-gauche. On est très peu à droite au Québec.
Il y a juste au niveau de l'identité que je dirais que là, il y en a un peu plus de droite, mais encore là, c'est pas la même droite que nous autres, majoritairement parlant. Là.
On souhaite la visite, là, puis c'est comme si on a l'air d'aller recevoir avec de la piquette puis du ballonné, je veux dire. Ça, en plus, on a les partis là-dedans qui veulent faire un pays, là, mais je suis comme, OK, mais la diplomatie, on l'a pas. Je trouve qu'on fait groupie. Il est censé avoir un certain décorum dans ces choses-là.
Cette semaine, Jacinthe Évarev parlait encore de santé, mais c'était le fun. André Fortin, député libéral de Pontiac, a remis Christian Dubé à sa place et Jacinthe est partie sur une rant parce qu'elle n'est plus capable que le système de santé soit géré par du monde pas vraiment compétent.
Et je fais rechercher. Et là, c'est un exercice risqué. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je ne peux pas confirmer exactement ce que ça va donner. Alors voilà, aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Alors ça, c'est pour moi, à partir d'aujourd'hui, en avant-midi, en après-midi, en soirée, pour un rendez-vous pour un suivi avec mon médecin de famille. C'est pas anormal ce qui vient de se passer là, hein, M. le ministre. Ça arrive régulièrement.
Ça arrive régulièrement.
Oui, le système est dans chenoute.
Ah. Et puis ça, là, dans cet exercice-là, il nous dit qu'il n'est pas capable d'avoir un rendez-vous avec son médecin de famille. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y en a un médecin de famille.
Ah oui.
Imaginez les 2 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Imaginez ceux qui n'en ont pas, puis qui doivent passer par le système, soit téléphonique, soit le système en ligne, essayer de se caser à quelque part. Puis imaginez que, bon, si c'est juste pour une otite ou pour un problème ponctuel, aller voir un médecin qui n'est pas ton médecin de famille, ça va. Mais imaginons qu'on commence à avoir un problème un peu plus chronique de santé. Imaginons que je desserre mal la poitrine, on dirait que mon cœur bat plus vite, j'ai des faiblesses. On sent là, qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur, par exemple. Donc là, c'est plus ponctuel. Je vais probablement avoir besoin de plusieurs examens de santé. Je vais probablement avoir besoin de suivi. Je vais probablement avoir besoin de référence vers un médecin spécialiste qui, lui, va envoyer les résultats. Puis tous les résultats d'analyse de laboratoire vont être envoyés à « C'est qui votre médecin de famille, madame? » Ah, j'en ai pas, mais j'ai vu docteur un tel à telle clinique parce que j'ai réussi à me faufiler
et puis avoir
j'ai réussi à avoir un rendez-vous dans une clinique quelconque, mais qui a pas mon dossier de façon générale. Puis donc oui, il y a un dossier, une espèce de dossier informatisé qui permet de centraliser les analyses de laboratoire, mais il reste que même c'est encore plus difficile d'avoir accès à un médecin pour ceux qui en ont pas de médecin de famille. Donc là, André Fortin faisait une belle démonstration que le système fonctionne pas bien. Puis à quoi Avenir Québec, Christian Dubé se targue beaucoup d'avoir amélioré et d'avoir fait beaucoup d'avancées dans le système de santé. Mais dans les faits, de l'époque de Gaétan Barrette à l'époque d'aujourd'hui, il n'y a pas plus de Québécois qui ont accès à un médecin de famille, qui ont un médecin de famille, qui sont attitrés à un médecin de famille. Il n'y en a pas plus. Il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là.
Non, c'est statu quo. On est loin d'un médecin de famille pour chaque Québécois. Là. C'est...
Non. Puis, on n'est pas capable d'avoir un rendez-vous dans une clinique médicale. Bon, ça dépend des régions, vous allez dire. Là. Il y a des gens qui écrivaient aujourd'hui. Je voyais que dans certaines régions, ça va bien, ça va vite. Tant mieux pour ces gens-là, mais il reste que ça crée une iniquité parce que tout le monde paie la même portion d'impôts. Tout le monde est imposé de la même manière, mais pour avoir accès aux mêmes services, les routes, les ponts, les infrastructures, les écoles et les hôpitaux et les soins de santé. Mais quand, au bout du compte, on est imposé et taxé de la même manière et que finalement, il y a un pourcentage de la population québécoise, donc à peu près 20% de la population québécoise qui n'a pas de médecin de famille ou celles qui ont la proportion qui a accès à un médecin de famille, finalement, n'a pas accès dans des délai acceptable, comme en fait la démonstration André Fortin, ben c'est franchement questionnable. Fait que bravo, bravo à André Fortin d'avoir fait cette démonstration-là. Je trouve que c'est un beau coup de génie, puis ça a fonctionné. Ça fait les manchettes aujourd'hui dans cette étude des crédits, qui est quand même un exercice souvent long et périlleux, parce que les ministres doivent répondre aux questions des oppositions sur, finalement, l'ensemble des crédits budgétaires qui sont affectés à leur ministère. Puis c'est des exercices souvent lourds, fastidieux, et de se faire, finalement, questionner de cette façon-là. C'est percutant, puis ça sort de la monotonie de ces exercices-là. Ça crée une trace dans l'imaginaire, puis ça permet aux médias de vulgariser puis d'en parler rapidement. Ben, moi, je trouve qu'il faut souligner les bons coups, peu importe de quel parti ils viennent. Je suis pas du genre à taper sa tête d'un seul parti. Alors, bravo, Parti libéral, d'avoir eu cette façon de présenter les choses bien simple, puis bien, c'était risqué aussi, parce que, comme il dit, il aurait pu aussi obtenir un rendez-vous, puis son plan fonctionnait plus. Mais il y avait sûrement assez de citoyens qui lui avaient porté à son attention le fait que ça fonctionnait rarement ou c'était très souvent problématique, le système, pour qu'ils prennent la chance de faire la démonstration. Il y a un médecin qui faisait une publication hier sur X qui mentionnait qu'il avait prescrit une IRM cerveau à sa patiente et il lui avait prescrit, et sur la prescription, il avait indiqué que la patiente devait avoir son IRM dans moins de 30 jours. Et la patiente a attendu 5 mois. Au bout de 5 mois, elle n'avait toujours pas d'appel de l'hôpital. Elle a appelé l'hôpital. Elle dit « Mais mon médecin a écrit qu'il fallait que je sois vue dans moins de 30 jours. Ça fait 5 mois que j'attends. » L'hôpital a répondu, aurait fallu que votre médecin inscrive urgent sur la prescription. Et le médecin a publié ça hier sur X, terminé ça comme ça, là, parce que ça démontre l'aberration, là, parce qu'il n'a pas écrit le mot urgent, ben, il était sur la pile des clients réguliers ou des patients réguliers. Pourtant, c'était écrit, pas vu en moins de 30 jours. Le système est brisé. Partout, partout, partout. C'est un petit exemple, mais si on additionne l'ensemble des exemples de chaque patient, on n'est même pas en mesure de dire le problème, il est là. Non, ils sont là, 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 là. Il y en a partout, tout au long de la chaîne de production de valeur, parce que c'est un service, la santé. Il y a une chaîne de production d'un service, mais dans toute cette chaîne de production de valeur-là, de service-là, ben, il y a des manquements, il y a des lacunes, il y a des aberrations que le privé, lui, laisse pas se rendre à ces dérapages-là. Parce que quand on dit pourquoi qu'au privé ça va bien, c'est parce qu'au privé, il y a un objectif de rentabiliser la clinique, de rentabiliser le service, parce que c'est une business. Alors, pour être rentable, on n'a pas le choix d'éliminer les gaspillages au fur et à mesure qu'ils se font. Dans une chaîne de production de valeur ou d'un bien, qu'on construise un objet ou qu'on livre des services, il y a une chaîne d'actions humaines qui sont faites par les travailleurs pour en arriver à produire le bien ou rendre le service. Et dans cette chaîne de production-là, ben, quand on veut être une entreprise rentable, on élimine les gaspillages de temps, les gaspillages financiers qu'il y a dans notre chaîne pour s'assurer que ce soit optimisé. Et ça se fait pas dans le public. Il y a eu plein d'initiatives pour rendre les services plus lean, là. Il y a eu beaucoup. Moi-même, j'ai été formée comme gestionnaire, là, dans un hôpital. Ils nous formaient tous, les gestionnaires, pour adopter ce point de vue-là, lean, là. Bon, puis c'était la grosse mode, la méthode Toyota, puis on a tous été formés à ça, mais malgré les bonnes volontés d'implanter le mouvement lean, bien, le lean, c'est jamais fait, parce que pourquoi ça se fait du lean, comment ça se réussit, c'est que c'est les employés sur le terrain qui disent ça, pourquoi qu'on fait ça de même, ça n'a pas de bon sens, les clients, ils nous passent longtemps à nous revenir avec leurs prescriptions, c'est les gens proches des patients qui les voient, les gaspillages de temps, les gaspillages d'argent, mais dans la hiérarchie du réseau de la santé, ben plus t'es haut, plus tu te penses bien bon, puis t'es bien payé, puis t'es grassement payé. Je vous garantis, les salaires sont très bien, très, très bien dans le réseau de la santé. On est grassement payé, et là, ben on n'écoute pas la base, parce que la base, on la regarde de haut. Puis je sais que je ne vais pas me faire des amis là en ce moment, là, mais j'ai passé dans assez d'établissements de la santé, et j'ai été dans toutes les couches de la hiérarchie, et je vous garantis que plus tu montes, plus les oreilles se ferment, les yeux se ferment. On ne veut pas être à l'écoute des gens sur le terrain. Fait qu'il s'en fait pas du vrai lean. On se fait former, on forme les gestionnaires, puis il s'en fait pas.
Formaté, je dirais même plus. C'est quasiment programmé. Cette semaine, notre mairesse Luce Danneau avait absolument besoin de parler du projet de loi 57 de la ministre Andrée Laforêt pour protéger les élus. Elle est allée fouiller aussi à la commission municipale pour parler de jurisprudence vis-à-vis cette nouvelle législation. Donc, oui. Ça va comme suit. Le droit à la réputation est enchâssé dans le Code civil du Québec et protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Les atteintes illicites à ce droit peuvent donner ouverture à un recours civil en diffamation. La diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui encore suscite à son regard des sentiments défavorables ou désagréables. Il a été reconnu en jurisprudence que les personnes qui exercent des activités politiques doivent faire preuve d'une plus grande tolérance que les autres citoyens. En raison de leur rôle public, les élus et élus municipaux doivent donc s'attendre à ce que leurs décisions soient remises en question et critiquées. Toutefois, le fait d'occuper une charge publique ne saurait se traduire par un anéantissement du droit à la réputation. Les élus et élus n'ont pas à tolérer des attaques gratuites à leur égard ou des insinuations basées sur des faussetés. Et je termine en disant, le recours en diffamation étant intenté à titre personnel, l'intervention de la municipalité est exceptionnelle. À moins que la municipalité ne soit visée par les propos en cause, elle ne pourra intenter un tel recours.
Moi, j'ai voulu savoir, est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence et tout ça, puis c'est là que je suis allée voir à la Commission municipale du Québec. Et là aussi, c'est une place où est-ce que si un élu insulte un autre élu, etc., c'est un endroit où est-ce que les élus peuvent aussi avoir une protection. Je suis allée voir. En fait, il y a deux pages qui m'intéressent. C'est la page 27-28 qui m'intéresse plus à fond. Parce que dans ce rapport-là de la Commission, ils ont mis en valeur les jurisprudences aussi de d'autres cas qu'il y a eu avant. Il faut comprendre le contexte. C'est un élu qui protège une citoyenne. Ça arrive là dans le conseil municipal qu'il y a des élus qui sont sur le bord des citoyens.
J'espère.
On est à Trois-Rivières. On est, et ça, c'est cette je ne sais pas en quelle année que c'est passé, mais on sait que c'est en 2024, en mars, là, c'est très récent, que la commission a fait son rapport. Et là, cet élu-là vient dire publiquement, parce que le journaliste l'interpelle quelques élus, et lui, entre autres, dit que ça n'a pas de bon sens parce que cette citoyenne-là, elle voulait protéger une bande de zones humides, puis elle trouvait ça épouvantable qu'on était pour couper les arbres. Puis elle défendait au niveau de l'environnement, bec et ongle, à son point, et elle sait qu'on lui a envoyé une mise en demeure en invoquant un règlement qui était sur la violence des propos ou quelque chose qui ressemble à ça. Le mot violent faisait partie de cette réglementation-là. L'élu dit, ben là, c'est une aberration, c'est ça n'a pas de bon sens. Et là, lui, il est interpellé par le journaliste et il dit au journaliste, mais c'est qui l'innocent qui a envoyé cette mise en demeure-là? Peut dire que lui, là, c'était l'avocat de la municipalité qui avait envoyé ça. Fait qu'elle, elle a fait un autre mise en demeure pour se
prendre ouais.
À cause de l'élu qui a utilisé des propos inadéquats. Et là, lui, il s'est défendu en disant, en fait, je sais que c'était l'avocate, mais moi, dans ma tête à moi, ça vient de plus haut. Ça vient soit de la direction générale ou ça vient du maire d'avoir donné le mandat d'envoyer ça à cette... Mais non, c'était de son propre chef qu'elle l'a fait. Puis c'était légal. C'est tout ça illégal. Fait qu'au final, la commission, elle dit, les propos qu'il a employés, c'était pas les propos nécessairement les plus élogieux. Il aurait pu faire autrement en disant, c'est qui a fait une lettre innocente comme ça, tu sais? Mise en demeure aussi. Bon. Par contre, il était déclaré, et là, c'est là le contexte est important, que selon la situation qui était quand même assez grave, où est-ce qu'on invoquait de la violence de propos à la dame, et de l'autre part, qu'on invoquait qu'il avait utilisé un propos de c'est qui l'innocent, alors considérant aussi qu'il y a aussi une expression, tu sais, il y a l'expression, mais on était bien innocent, tu sais, bon, ben c'est, il y a l'expression, et qui ne visait pas la personne directement.
Non, l'acte est innocent, pas la personne qui l'a fait.
Exactement. Il ne visait pas l'avocate nécessairement, parce que dans sa tête à lui, il le savait, mais c'est qui?
Oui.
Est-ce que c'est la DG ou est-ce que c'est la direction générale ou est-ce que c'est le maire de la place? Bref, il a gagné sa cause. Je venais à le dire parce que les propos qu'il a employés, ça peut arriver qu'un citoyen, lui, avant d'être élu, il avait le statut que de citoyen. Là, il y a deux statuts, mais c'était le cas. Alors là, on dit que la démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et des débats ouverts, parfois vigoureux et passionnés. On voit ça dans nos conseils.
Oui.
Les échanges sur des matières controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté. Ça, c'est la base. Si les règles entourant le déroulement de pareils débats sont appliquées de manière à laisser craindre à ceux qui y participent d'être traînés devant les tribunaux, au moindre écart, la probabilité qu'ils choisissent de se retirer de la chose publique s'accroît. Voyez-vous là, moi je peux appliquer ça directement au citoyen qui veut essayer aussi de participer à la démocratie, dire ce qui n'est pas d'accord, de la manière qu'il veut le dire, et moi ça me fait peur sur l'avenir de la démocratie municipale. Il y a un danger là absolument de vouloir trop encadrer la façon que les citoyens parlent. Il était dit il ne faut jamais oublier, et là quand je veux dire que les élus, mais on pourrait dire que les citoyens parce que les élus ou sont aussi des citoyens parlent avec le lexique qui leur est propre. On ne peut exiger d'eux, quand ils s'expriment, qu'ils le fassent avec un vocabulaire exemplaire, et ce, tout le temps, et qu'il ait un jugement à toute épreuve. Leur imposer ces standards les condamnerait à se taire. Pourquoi? Par peur d'une sanction.
Exactement.
Donc, on en est là. Puis on dirait qu'on s'en va. On dirait que c'est la suite logique du wokisme.
Ben c'est ça, c'est qu'on sort pas tout de l'Académie de la langue française non plus. C'était au municipal. T'es sur littéralement le plancher des vaches, là. C'est sûr qu'il faut que tu joues, tu règles avec des citoyens de toutes sortes, des gens qui ont des études universitaires, d'autres qui sont des travailleurs. Puis mon but, c'est pas de les dire qu'il y en a qui sont plus brillants que d'autres. T'sais, moi, bien sûr, bien évidemment, c'est partie de ma job de communiquer. Je suis un communicateur. C'est sûr que je m'exprime peut-être un peu une coche au-dessus de la moyenne du monde. C'est pas vouloir me flatter plus qu'il faut, c'est faire partie de ma job. C'est sûr que si t'es un plombier ou si t'es quelqu'un qui travaille dans une usine, qui fait pas nécessairement du service client, ce gars-là ou cette femme-là est sûrement beaucoup plus habile de ses mains que moi, parce qu'à cause qu'elle fait ça, on a chacun nos points, nos défauts et nos qualités, puis nos talents et les trucs qui restent à améliorer. On termine comme d'habitude avec Sensei Pascal Derry, qui nous parlait du film Red Belt, et plus précisément, le besoin de nos jeunes d'apprendre les arts martiaux.
Puis il dit dans la bande-annonce, je trouve ça le fun, il est pas là pour enseigner aux gens à gagner des combats, il est là pour enseigner aux gens à survivre des situations, à être plus résilient, puis c'est totalement ça, l'apprentissage des arts martiaux. Je le dis souvent quand je parle de cet art-là, parce que même si je suis plus dans un dojo à longueur de journée, je suis encore dans un dojo à longueur de journée, mais dans mon cœur, dans ma tête, tu peux sortir le karatéka du dojo, mais tu sors pas le dojo du karatéka, à mon sens. Puis ce qu'on enseigne aux gens, c'est pas l'auto-attaque, c'est l'autodéfense. C'est une réaction, c'est une méthode d'être. Puis souvent, l'autodéfense commence à la prémisse. Puis la prémisse, c'est quoi? C'est de dégager une image de personnalité ou de personne forte, de personne fière, de personne confiante. Puis je le dis très souvent, quand j'ai fait des séminaires là, d'autodéfense, là, des groupes là, surtout de femmes, parce que c'est les femmes qui recherchent ça le plus possible, c'est de développer personnellement une confiance qui fait que quand tu marches dans la rue, mis à part les techniques là, de simples comme si t'as à marcher tard le soir, prends pas tout le temps le même pattern de marche parce que c'est déjà là que s'il y a une personne dans le quartier qui est mal intentionnée, elle va devenir ton pattern, puis c'est comme ça que tu peux devenir plus vulnérable. T'sais, d'avoir peut-être un objet ou deux sur toi, de tous ces choix-là de base là, qu'on enseigne quasiment aux enfants. Au-delà de ça, si on dégage une certaine confiance, une certaine force de caractère, je vous garantis que ça élimine à peu près 80-90% des chances de se faire attaquer. Parce que la personne qui veut faire du mal, qui veut attaquer, ça a été tente pas de travailler fort le soir. Là. Ça ne va pas dire, moi, ça me tente d'avoir un défi à soir. Qu'est-ce que c'est que j'essaye de prendre quelqu'un de facile, une proie facile? C'est ça le tempérament d'un prédateur. Un lion n'ira pas attaquer un rhinocéros. Il va pogner le chevreuil. C'est bien plus facile. Il m'a mangé plus vite. Ça court moins vite. Ça se met quasiment comme ça ici. Ça se laisse manger au complet. C'est plus facile d'atteindre la nuque. Tout ça. Un prédateur va chercher des proies faciles. Puis ça, c'est très fort pour les enfants. Là. C'est un enfant qui fait des arts martiaux très tôt. Moi, je commençais à 3 ans. On commence dans l'amusement, puis graduellement, on apprend à ces petits pets-là, puis c'est cute à mort. Moi, c'était mon cours préféré, là. Rien de plus cute qu'une petite adresse avec un petit kimono puis des gros joues. Là. Des fois, il faut que tu les chicanes un peu, puis t'as rien qu'envie de lui prendre les joues, fait que... Mais graduellement, ce que tu leur apprends, c'est il y a un environnement avec des règles, il y a des grandes personnes à qui il faut que tu écoutes, puis so on and so forth. Quand j'arrive 5, 6, 7, 8, 9 ans, dans la démarche des arts martiaux, où ils ont traversé des moments difficiles physiquement, des moments difficiles psychologiquement, dans une méthode contrôlée. Ils ont vécu là, des émotions, ils ont vécu des épreuves. Ils arrivent dans le cours de récréation, eux de regarder à terre avec les lunettes, puis échapper le lit, puis envoyer un signal que moi, je suis une brebis. Fait que tous les loups qui sont dans le cours de récréation, oups, c'est eux autres qui ont spoté. Malheureusement, on peut bien se mettre la tête dans le wokisme autant qu'on veut, mais la vraie vie, c'est ça. Il va tout le temps avoir des personnes mal intentionnées qui aient 47 ans, qui en aient 21 ou qui en aient 8. Vous savez pas quel background, si vous ne croyez pas, allez passer une couple d'après-midi dans un cours de récré ou dans des environnements scolaires. Des mauvaises personnes, des mauvais enfants, ça existe. C'est pas nécessairement des...
Des mauvais enfants, ça existe.
Ça existe. Et vous allez dire, ouais, mais ils viennent de préparants ou de mauvais. Je peux bien en convenir. Mais là, on a mis le focus trop sur, on va pleurer mauvais enfants qui étaient mal élevés. Puis on a oublié des 3-4 personnes qui se font intimider, qui se font tabasser justement par le mauvais enfant. T'es un peu, là. Attends un peu. Moi, si je suis le père d'une cocotte, là, ou d'un tipette qui s'en va au primaire, je veux qu'il y ait les outils pour se tenir debout. Dans ma carrière, combien de fois vous pensez que j'ai intervenu directement auprès d'enfants qui se sont fait tabasser dans le cours de récréation? Des bons enfants, ils se faisaient tabasser, c'est clair, il y avait un bon fond. Des bons enfants avec un bon fond, bien élevés, dans un milieu d'amour, qui manquait juste un peu de confiance. Puis j'ai une cocotte en particulier que je parle, là. Aujourd'hui, les premières dames, elle vient de la recevoir, première dame, là. Il était 3-4 dessus, sa cour de récré. Ben, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut qu'il se fasse, qu'il se passe? Ben, il faut qu'à un moment donné, elle en pogne un, puis elle donne un punch entre les deux yeux, qu'elle fasse comprendre aux autres que, hey, si tu me cherches, tu vas me trouver. Puis je vais répéter à elle exactement ce que je répéterai à n'importe qui vient de voir la même situation. Puis c'est pas une question de, hey, lui, il fait la promotion de la violence. Mais il faut être d'une imbécilité absurde pour avoir la tête entre les deux fesses pour pas penser que c'est de même, ça se passe dans la vraie vie.
Ça va toujours
pour dire que vous pouvez être des illuminés, wokistes, ou mettez le tag que vous voulez, de dire que tu vas y faire un petit dessin, puis un collage en nouilles, puis dis que tu t'excuses, blablabla, puis on kumbaya, c'est pas de même, ça se passe. Puis les problèmes grandissants comportement aux écoles montrent cette maudite méthode molle. Fonctionne pas pour tout le monde. Il y en a qui comprendra pas ni du CUL ni de la tête. Fait que moi, mon discours à mes élèves, c'est que commander le karaté, là, va fait pour garder dans ton tiroir à bas. C'est fait de t'en servir quand t'en as de besoin. Fait que si la cocotte dont je vous parle, pendant qu'elle est en petite boule, là, elle se fait frapper là, par toi dans le cours de récréation, là, ça peut se fâcher, se lever, en pogner un, puis pouf! Entre les deux yeux. Elle va avoir une retenue. Mais j'aime mieux qu'elle ait une retenue ce dimanche-là, puis qu'elle se fasse sacrer à paix pour les 5 prochaines années. Qu'elle hésite de sortir son karaté, puis qu'elle se fasse intimider pendant les 5 prochaines années. Parce que le premier choix, là, elle va se faire sacrer à paix pendant 5 ans. Ça va être beaucoup moins dommageable pour son anxiété, son estime personnelle, son développement humain dans des années qui sont très formatrices que l'autre où je suis fier de toi, parce que t'as pas été violente, t'as pas sorti un courant. Faut les comprendre, ils sont pas gentils. Mais pendant 5 ans, là, elle est en train d'apprendre que c'est une moins que rien. Elle est stressée à tous les fois qu'elle voit 3 personnes dans le cours de récréation. Elle sait pas si elle va en manger une aujourd'hui, demain ou après-demain. Excuse-moi, mais ça, c'est un environnement de MARDE. Mes élèves, c'est tellement des bons enfants qu'ils venaient de me voir, puis ils avaient quasiment honte de me dire « Sensei, j'ai pris mon karaté à l'école. » Puis je leur ai dit... Et je leur ai dit exactement ce que je leur ai dit ça. La même affaire. Je suis fier de toi, tu t'es défendu et voici les raisons. Puis c'est le même discours que j'avais aux parents. Quand même qu'il y avait une retenue, ben ça sera un dimanche avant midi qu'ils feront des dessins, qu'ils feront une copie. Mais Christy, après ça, ça va être funny.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube et Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez en savoir davantage ou avoir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au Patreon.com/Isénéchal. Bon week-end tout le monde.